Bonjour. Moi, je suis Lise. J'ai commencé ce projet en 2019. Et c'est un projet qui. J'essayais de documenter les racines de la migration climatique. Parce que quand on parle souvent de la migration, et on voit toujours cette caravane des migrants qui part vers les États-Unis. Par contre, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur pays d'origine. Donc là, j'ai passé 6 mois à habiter avec deux familles mayas. Bon, j'ai passé 6 mois et en 2019-2020 dans la région du sud de Chiquimula, qui c'est à côté de la frontière avec Honduras et El Salvador. Et après, je suis allée dans une autre famille au nord, à Huehuetenango, qui est à côté de la frontière avec le Mexique. Et là, leurs conditions de vie sont très difficiles parce qu'ils sont des gens qui sont complètement isolés. Ils sont pas des rues asphaltées. Ils s'habitent normalement dans des maisons en terre. Et ils sont des agriculteurs qui récoltent des maïs et des frijoles. Mais pour le changement climatique, leurs conditions de la terre, ça devient de moins en moins fertile. Donc ça veut dire qu'à la fin, ils mangent très très peu, des fois qu'une fois par jour, que d'haricots et des tortillas, des maïs, et c'est pas du tout suffisant. Donc au final, on a un pays qui est agro-exportateur des cafés et des cannes à sucre qu'on consomme ici en Europe, aux États-Unis. Les sucres, c'est pour Coca-Cola et des grosses entreprises. Mais par contre, la moitié de la population, ils sont mal nourris. Mais c'est une malnutrition un peu différente que ce qu'on voit dans des images dans les champs des réfugiés en Niger, au Tchad, au Soudan du Sud. Parce que ce n'est pas de la malnutrition aiguë, c'est une malnutrition qui s'appelle la malnutrition chronique, que ça veut dire que les enfants, normalement, ils ne meurent pas, mais ils ne se développent pas bien, surtout la partie cognitive. Donc ça veut dire qu'après, c'est la perpétuation de la pauvreté, parce qu'après, quand ils se développent, ils vont à l'école, ils n'ont pas les moyens de se concentrer. Donc elles quittent l'école à un âge très très jeune et deviennent des travailleurs pour les plantations des cafés, des cannes à sucre et ils sont payés beaucoup moins de la moitié des salaires minimums. Donc après, l'unique chance pour cette famille-là, c'est de partir aux États-Unis. Mais ce n'est pas toujours assez évident parce que pas tout le monde peut partir parce que pour payer les passeurs, les coyotes, ça coûte normalement entre 6 000 et 9 000 US dollars. Donc ça veut dire que s'ils peuvent partir, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un aux États-Unis qui peut payer leur voyage. Ou sinon, il met ce petit terrain d'agriculture, leur maison et pour les passeurs. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, et ils payent petit à petit pendant des années. Et s'ils n'arrivent pas à partir, au final, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de terre. Donc c'est très 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 compliqué. Vous allez voir après qu'il y a des parties hyper vertes, parce qu'ils sont dans la montagne. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la sécheresse. Bien sûr, on n'est pas au Sahel en train de voir les déserts au nord du Sénégal, Mali, etc. Ce n'est pas ça. Mais la terre, elle est plus fertile. Et en plus, il y a dans les changement climatique, il n'y a pas la sécheresse, mais aussi la pluie. Par exemple, l'an dernier, il y avait deux ouragans, Eta et Iota, qui aussi, ils ont détruit toutes les récoltes. Donc, les dérèglements climatiques, c'est d'extrême à extrême. Donc, c'est pour ça que bon, il y a beaucoup de parties vertes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas des malnutritions, ils arrivent à avoir un récolte normal. C'est chaque année plus difficile, donc la situation s'aggrave. J'ai passé 6 mois à habiter avec eux, donc une partie je l'avais fait dans leur maison, donc je voulais documenter les quotidiennes, le jour à jour de cette famille, parce que comme je disais, si on arrive là-bas et on prend quelques photos, oui, on voit la pauvreté, mais on voit pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire manger qu'une fois par jour. J'ai aussi fait des sons, donc j'ai des audios, j'écris aussi, je suis journaliste, donc j'essaie de faire un travail multimédia de ça pour raconter et qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vie quotidienne. Mais aussi, je suis partie avec eux dans le plantation des cafés et aussi des cannes à sucre, et j'ai vu comme des enfants à l'âge de 5 ans commencent à travailler, aussi les familles avec des sons et des femmes un peu plus âgées, à 70 ans, et toute la famille travaille et ils passent là-bas presque entre 3 et 6 mois à l'année. Et vraiment, ils gagnent presque rien parce qu'ils mangent et les propriétaires de la plantation les donnent à manger, mais après, ils les enlèvent des salaires à la finale de séjour. Donc, j'ai passé ces 6 mois en train de les suivre et maintenant, je viens d'y aller pour 2 mois et demi. Je suis documentée un peu plus la malnutrition, qu'est-ce que ça veut dire et à l'école, est-ce qu'il y a presque 80% de la population dans les zones indigènes. Ils sont mal nourris. Donc, quand on parle de Guatemala, c'est un chaque deux enfants, ils sont mal nourris. Dans des zones indigènes, c'est la majorité.
Comment vous avez été accueillis par les familles?
Quand j'y suis arrivée la première fois, c'était en 2018. J'ai travaillé pour Action contre la faim et j'avais fait un travail d'un mois. Donc déjà, j'avais établi des contacts. Et la deuxième fois, quand je suis partie toute seule pour faire ce projet un peu plus personnel, j'avais déjà parlé avec des familles de ce que je voulais faire. Et une fois qu'ils ont compris, et ils étaient très contents parce qu'ils se sont très marginalisés par tout le monde, mais aussi par son gouvernement. Ils sont presque pas de santé, il n'y a pas d'école, c'est très difficile leur situation. Donc une fois que je suis arrivée, je parlais la langue et ils me sont accueillis et je faisais partie de leur vie quotidienne parce que j'habitais avec eux. Des fois, je prenais même pas des photos, je les aidais à faire la cuisine, aller à l'échange et j'ai vraiment fait partie de leur vie. C'est très compliqué parce que l'an dernier, il y avait les 2 ouragans qui ont détruit la récolte. Mais maintenant, et après, c'était la pandémie. Donc normalement, ils partaient au Mexique, au Honduras, ou à travailler à des plantations de café. Et c'était impossible pour les restrictions. Donc maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui sont en risque de mourir. Donc on passe de la malnutrition chronique à la malnutrition aiguë. Donc quand il y a ce type de cas aigus que les enfants meurent, là, il y a les journalistes locaux qui arrivent, ils prennent quelques images. Et il part, mais il n'y a pas vraiment un travail documentaire de ce qui se passe dans ce type de peuple indigène à la montagne. Et de toute façon, c'est très compliqué d'arriver à les rues pendant l'hiver, c'est impossible et les ponts s'est détruits. Donc ils sont vraiment isolés, donc c'est pas toujours évident d'arriver là-bas. Ils sont très marginalisés, c'est très paradoxal parce qu'on parle d'une civilisation assez importante, les Mayas, et maintenant ils étaient tellement marginalisés pendant la colonisation espagnole et après il y avait une guerre de transition qui ça finit ça fait pas longtemps et ils se sont pas fiers d'être mayas. Dans ces cas-là, les sortis, ils disent qu'ils sont espagnols, ils sont des métis, même s'ils ne sont pas, mais parce que ça veut dire que tu es marginalisé, tu n'as pas des opportunités.
Est-ce que ça a été un atout d'avoir été une femme pour faire ce travail auprès de ces familles?
Je ne connais pas des hommes qui ont fait ce travail, mais en tout cas pour moi, je pense que j'avais un accès assez facile parce que j'ai dormi avec des filles, parce qu'ils habitent tous dans des maisons en terre et tous ensemble. Donc j'ai partagé avec 3 filles la même lit. Je pense que pour un homme, ça doit être un peu plus compliqué. Oui.